Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 1er février rime avec, ça a augmenté à partir d'aujourd'hui, plus 15% sur votre facture d'électricité, près de 15%, près de 5% au péage. On vous dit tout. Le rythme va s'accélérer, le bras de fer se renforcer. 2 journées d'action la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Et puis, trafic de cocaïne et corruption, dérive mafieuse au port du Havre. 6 hommes devant la justice aujourd'hui.
On est le 1er février et votre porte-monnaie va en prendre un coup.
Série de hausse des prix dans plusieurs secteurs du quotidien. Bonjour Romain Houg.
Bonjour.
Vous allez tout nous expliquer. On commence avec notre facture d'électricité.
Oui, dès aujourd'hui, 20 millions de foyers voient leur facture d'électricité augmenter de 15%. Concrètement, si votre foyer consomme 8500 kWh d'électricité par an, eh bien, la facture passera de 1600 à 1845 euros. À noter que cette hausse des tarifs réglementés, elle concerne également 1,5 million de petits professionnels. Sans le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, la facture aurait tout simplement doublé.
Et la série des augmentations continue, Romain.
Et en particulier si vous êtes automobiliste, habitué de l'autoroute, à partir d'aujourd'hui, le prix des péages augmente d'un peu moins de 5% en moyenne. Hausse aussi des tarifs des taxis. Ça diffère en fonction des départements, mais ça représente jusqu'à 4% d'augmentation par course. La seule bonne nouvelle aujourd'hui, elle est pour les détenteurs d'un livret A. Vous êtes 55 millions dans ce cas, et bien son taux passe de 2% à 3%. Le taux du livret d'épargne populaire réservé aux plus modestes est lui revalorisé à 6,1%.
Merci beaucoup Romain. Et un dernier changement à vous signaler qui concerne les demandeurs d'emploi. Leur durée d'indemnisation est réduite d'un quart à partir d'aujourd'hui, conséquence de la réforme de l'assurance chômage, très contestée avant d'être adoptée. C'est ce que veulent éviter justement les opposants à la réforme des retraites. Les syndicats galvanisés par une mobilisation en hausse hier, 1 200 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, le double selon les syndicats, ont fixé non pas mais 2 journées d'action la semaine prochaine, le mardi 7 février et le samedi 11. Les manifestants répondront-ils présents? C'est un grand oui à Guéret dans la Creuse, une petite ville très mobilisée où se trouvait Caroline Philippe pour RMC.
Il faut continuer, c'est le mot d'ordre de Samuel. Ce fonctionnaire de 37 ans est résolu à débrayer et manifester autant de jours qu'il le faudra.
S'il y en a 50, je ferai les 50. Je ferai toutes les mobilisations et à un moment, il faut se battre pour notre vie. La vie n'a pas de prix, donc on n'ira pas au resto, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Je préfère perdre de l'argent que perdre ma vie.
Et pour donner encore plus d'ampleur au mouvement dans les prochaines semaines, Cynthia, professeure des écoles, essaye de convaincre.
J'ai des connaissances qui sont venues et qui n'ont pas l'habitude de manifester ni même de faire grève. C'est ça le but aussi, de rester mobilisé et de se dire que si on amène tous un copain la prochaine fois, ça fera boule de neige.
Parmi les nouveaux, Paul, agriculteur, manifester c'est bien, mais il est prêt à aller plus loin pour faire entendre sa voix.
On voit que la mobilisation aussi a pris de l'ampleur et ça nous donne envie d'aller de l'avant. Au niveau agricole, il y a une certaine démobilisation, on va dire. Là, peut-être que ça va redonner un petit peu d'élan pour booster un peu les choses. On est prêt à revenir et si ça bouge pas au niveau du gouvernement, même à durcir le mouvement, ouais. C'est-à-dire venir avec des tracteurs et pourquoi pas organiser des blocages. On en parle, ouais, on y réfléchit.
Et selon lui, c'est justement en durcissant le mouvement qu'il prendra encore plus d'ampleur.
Le gouvernement inflexible, on ne vacille pas sur nos certitudes. C'est ce qu'a dit ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Un procès est requis contre François Bayrou et 2 autres membres du Modèle pour complicité de détournement de fonds publics. C'est cette affaire des assistants parlementaires qui, en 2017, avaient poussé François Bayrou à démissionner du gouvernement. Martin Pourdin, pour RMC, nous explique ce qui lui est précisément reproché.
C'est tout un système mis en place au sein du Parti centriste entre 2009 et 2014 qui est au cœur de l'enquête à l'époque. François Bayrou est déjà le patron du Modem. Le parti compte plusieurs eurodéputés et embauche pour les aider des assistants parlementaires payés avec des fonds européens. Sauf que certains de ces assistants auraient occupé en réalité des emplois à temps partiel ou à temps plein au sein du Parti centriste, un moyen d'en assurer le fonctionnement à moindre coût, estiment les enquêteurs. préjudice estimé pour le Parlement européen 1 400 000 euros. François Bayrou est évidemment l'un des principaux accusés, mais plusieurs anciens cadres du parti sont aussi mis en cause. L'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, ou l'ancienne eurodéputée, Sylvie Goulard, par exemple. C'est au juge d'instruction chargé de l'enquête que revient désormais la décision de les renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel. Le MoDem, de son côté, a toujours assuré avoir respecté toutes les règles.
Et la réaction de François Bayrou, ce sera sur RMC. Il est mon invité à 8h30.
On l'a appris il y a un instant, l'État va prendre le contrôle des maisons de retraite Orpea via la Caisse des dépôts et sauver l'entreprise de la faillite. L'entreprise qui recevra 1,5 milliard d'euros pour éponger ses dettes. Le port du Havre, au cœur d'un scandale de trafic de drogue. 6 hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui devant les Assises du Nord, accusés d'avoir fait circuler de la cocaïne via des bateaux de marchandises avec l'aide de dockers corrompus. Un système mafieux au sein de l'un des plus gros ports français, que nous raconte Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC.
C'est un informateur qui a mis la police sur la trace des suspects. Leurs logements ont été équipés de micros et ils ont été confondus par des écoutes. Se croyant seuls, les délinquants parlaient librement de leur activité criminelle. La cocaïne placée dans des conteneurs de marchandises légales au départ de l'Amérique du Sud était récupérée à l'arrivée des cargos grâce à des dockers corrompus. À 4000 euros le kilo de cocaïne, tout le monde était grassement payé. La police a mené une série d'opérations en juillet 2017 dans le port du Havre. Résultat, 1300 kilos de cocaïne et 445 kilos de cannabis saisis sur plusieurs bateaux. 8 petites mains ont déjà été condamnées. Un docker impliqué dans ce trafic avait été retrouvé mort en juin 2020 après avoir été enlevé. Une instruction est toujours en cours.
Il est 8h07 sur RMC ce matin. Le Paris Saint-Germain se retrouve sans recrue. Le mercato s'est transformé en un incroyable imbroglio. Problèmes administratifs, et oui, qui ont compromis la signature du milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech. Les Parisiens, qui se déplacent d'ailleurs dans le sud face à Montpellier à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, le club de la capitale a besoin de se relancer face au 14e du championnat après un mois de janvier raté. L'entraîneur Christophe Galtier tente de remobiliser ses troupes. Écoutez.
Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là et des prestations à la fois collectives mais aussi individuelles. Évidemment qu'il y aura des décisions à prendre pour qu'on recrée aussi de la concurrence. Il faut recréer de la concurrence parce qu'on est tombé dans une zone de confort qui finalement, dans laquelle on a du mal à sortir et il va falloir se secouer.
Coup d'envoi à 21h et ces 10 matchs de la 21e journée de Ligue 1 sont à suivre dans leur intégralité dès 19h sur RMC. On va aller faire un petit tour au cinéma maintenant parce que c'est la sortie d'un des plus gros films français de ce début d'année, un nouveau Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Cette fois, les Gaulois se rendent en Chine. Alors c'est Guillaume Canet cette fois-ci qui reprend le rôle d'Astérix et Gilles Lelouch, celui d'Obélix, un nouveau duo. Est-ce qu'il a convaincu les spectateurs? Des avant-premières ont été organisées dans toute la France et Martin Cadoret a demandé leur avis à ses spectateurs chanceux.
Tombé dans Astérix quand il était petit, Thierry avait peur de cette adaptation et finalement...
J'adore le scénario, des paysages qui sont magnifiques.
Le petit Gaulois va aller jusqu'en Chine.
Assurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même.
En réalité, le film a été tourné en Auvergne, mais les fondamentaux sont là pour Florian.
Il y a quand même ce parfum d'aventure, il y a quand même de l'humour.
Et pour la première fois, Obélix, ce n'est plus Gérard Depardieu, mais Gilles Lelouch.
De voir passer après Depardieu, c'est quand même compliqué. Il a fait le travail quand même, ça correspondait un peu plus à l'esprit de la BD. Il avait un côté un peu plus enfantin.
Mais la potion magique n'a pas fait effet sur tout le monde. Ce spectateur déçu, par exemple.
L'humour un peu potache est très très présent dans le film et je trouve un peu lourd. J'ai plus eu l'impression de voir un téléfilm qui avait un peu trop de budget plutôt qu'un vrai film de cinéma.
Pas très gaulois envers Guillaume Canet, le réalisateur qui s'est donné du mal.
Il y a plus de 1200 personnes qui ont travaillé sur le film. On a tout tourné en France, que les gens étaient tellement motivés. Tout ce que les gens ont fait, les costumes. Il y avait 500 figurants, c'était des costumes avec des dés de cuir qui a été découpé à la main.
Cerise sur le gâteau, quelques célébrités au casting. Aurel San, Angèle, mais surtout Zlatan Ibrahimovic qui offre de la vie générale une performance fantastique.
Pourquoi parler quand on peut voler?
Avis mitigé donc pour un film au budget pharaonique, 65 millions d'euros, c'est le 9e film français le plus cher de l'histoire.
Et vous irez le voir?
Je sais pas.
Pas hyper motivé, je sens.
Après avoir vu les critiques, j'hésite.
Avec les enfants,
tout ouais, c'est ça. Plaisir. Moi, je me dis que j'irai quand même.
Familial.
Ouais, exactement. Il est 8h10, vous êtes bien sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
L'inflation touche davantage les plus modestes et le bouclier tarifaire manque sa cible. La Fondation Abbé Pierre lance l'alerte sur RMC. Le parti pris de Manuel Domergue, qui est son directeur, et c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et on va surveiller vos réactions sur Direct Studio avec les syndicats qui annoncent deux nouvelles journées de mobilisation, de manifestation contre la réforme des retraites. Ce sera le mardi 7 et le samedi 11. Et Philippe nous écrit, je voulais vous signaler que pour la première fois de ma vie, j'irai défiler le samedi 11 février. Je ne fais pas partie d'un syndicat, je n'ai jamais fait grève, mais je suis à quelques années de la retraite et on m'annonce que je vais devoir bosser un an de plus. C'est parfaitement injuste. Donc j'irai pour la première fois, écrit Philippe. Béatrice, elle nous dit, j'en ai marre des syndicats qui ne pensent qu'à bloquer. Ils défendent quelques corporations, ceux qui sont déjà privilégiés, des professionnels de la grève. Ils vont surtout emmerder les Français qui bossent dur et qui savent déjà qu'il faudra bosser dur pour la retraite, écrit Béatrice. Et puis j'ai Kamel qui nous écrit, moi j'ai manifesté pour la première fois hier à Marseille, je n'avais pas pu y aller le 19, et franchement, vu l'ambiance et la détermination qu'on ressent en parlant avec les gens, je suis plus que motivé pour aller jusqu'au bout de ce combat. Voilà ce qu'écrit Kamel. Vous aussi, vous prenez la parole, évidemment, vous le savez, au 32-16 et sur Direct Studio pour nous dire si vous comptez ou pas vous mobiliser la semaine prochaine, le mardi 7 et le samedi 11.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Le parti pris ce matin, c'est le vôtre, Manuel Domergue, bonjour. Vous êtes le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. L'Abbé Pierre qui alerte ce matin, vous publiez votre rapport annuel sur le mal-logement. Il est dur à lire, mais il ne faut pas fermer les yeux. Vous dites notamment que le nombre de SDF en France augmente. Et vous dites d'ailleurs que ça n'est pas un hasard. Votre parti pris, c'est aussi de dire que c'est le résultat d'une politique anti-pauvre en France.
Oui, tout à fait. On est maintenant à 330 000 personnes sans domicile. C'est 130% de plus qu'en 2012. Les sans domicile, c'est des personnes qui sont soit à la rue, soit en hébergement d'urgence, des conditions très dures de vie. Ce qui nous alerte, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement ne prend pas la mesure du problème et surtout n'a pas de politique qui pourrait venir le résorber. Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, sa deuxième, n'a jamais parlé de logement quasiment. Il n'y a rien dans son programme. Olivier Klein, ministre du Logement, a une page blanche comme feuille de route. Donc c'est très inquiétant. Ce qui est très inquiétant, c'est que non seulement il n'y a pas d'action suffisante, mais il y a des actions négatives.
Quelles sont les actions négatives ? C'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'aide, c'est une chose, ouais. Mais qui est carrément... Pour vous, il y a des décisions politiques qui font basculer dans la pauvreté, qui font basculer dans le mal-logement, voire même dans le non-logement, des gens qui pourraient y rester.
Absolument, c'est la reprise des expulsions locatives après le Covid. On est revenu à des niveaux records en 2022. Record également qu'on n'avait jamais connu d'expulsion de bidonvilles sans aucune solution d'hébergement derrière, ni même de logement évidemment. Donc ça veut dire des milliers de personnes qui se retrouvent en errance parfois pendant des années. Et puis on a vu aussi cette proposition de loi, Casbarian-Berger, qui va mettre en prison des personnes qui sont en impayé de loyer, des personnes qui sont dans des squats, y compris des squats de bâtiments.
En fait, on a mélangé, vous étiez d'ailleurs venu l'expliquer sur cette antenne, on a mélangé les squatteurs, ce qu'on voit dans un certain nombre de reportages, y compris sur notre antenne, où on voit en effet des gens qui ont manipulé un système qui leur permet de squatter des logements vides ou des logements qui ont juste été évacués le temps d'aller en maison de retraite, par exemple, pour les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les squatteurs. Mais dans cette loi, on a mis aussi ceux qui ont juste du mal à payer leur loyer.
Oui, et puis il y a aussi un amalgame entre les squatteurs de domicile. On vient chez vous. Là, ce soir, il y a quelqu'un qui squatte chez vous. Évidemment, personne ne défend ça et c'est extrêmement rare. Et des gens qui vont squatter, parce qu'ils n'ont pas le choix, des entrepôts vides, des hangars désaffectés, qui font de tort à personne. Et eux, on va les envoyer 2 ans en prison, c'est quand même assez dangereux. Et il y a aussi l'amalgame qui est fait, vous l'avez dit, avec les locataires qui ont juste des problèmes à payer leur loyer, comme des millions de personnes, et qui se retrouvent à un moment menacés d'expulsion, et qui là vont se retrouver également menacés de prison, 6 mois de prison.
Manuel Domergue, on l'a dit, le nombre de SDF a tristement doublé, et pourtant on se souvient de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron en 2017, il avait dit « plus personne dans la rue avant la fin de l'année ». Il y a un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question des femmes. On en parle beaucoup en ce moment sur la question des retraites. On considère qu'elles seront perdantes, en tout cas du point de vue du travail. Elles vont devoir travailler plus longtemps, même si au final, forcément, puisqu'elles vont travailler plus longtemps, elles auront des pensions quand même qui seront légèrement revalorisées. En lisant votre rapport de la Fondation Abbé Pierre, on voit aussi que c'est elles les plus touchées par le mal-logement.
Oui, tout à fait. Elles sont touchées par le mal-logement à certains moments clés de leur vie où la trajectoire des hommes et des femmes est différente. Notamment en cas de séparation conjugale, c'est vraiment le moment clé, le moment critique. Pendant quelques années, pendant que vous étiez en couple, on a mis en commun les revenus, le logement évidemment. Au moment de la séparation, chacun reprend ses billes et c'est très dur pour les femmes, notamment quand elles ont dû s'arrêter de travailler pour élever des enfants, pour accomplir des tâches domestiques gratuites. Et donc, au moment de la séparation, c'est très dur parce que souvent, elles perdent
leur statut. Elles n'ont pas capitalisé là-dessus,
en fait.
La plupart du temps, quand
évidemment.
Elles se sont arrêtées de travailler,
c'est du travail gratuit.
Elles ont travaillé à la maison, mais du coup, c'est plus elles qui payaient l'emprunt, qui payaient le loyer.
Il arrive que ce soit l'homme qui soit titulaire du bail ou qui soit propriétaire du logement quand ils sont propriétaires. Et donc, la femme perd tout. Et ce qui change beaucoup le destin de ces personnes dans ces cas-là, c'est le fait d'avoir la charge des enfants. Ce qui change vraiment en termes de mal logement, c'est qu'il y a énormément de mères célibataires, beaucoup plus que de pères célibataires. Et on sait que les mères célibataires, elles sont plus du tiers sous le seuil de pauvreté et elles sont très surreprésentées parmi les personnes en surpeuplement, hébergées chez les tiers, dans des très mauvaises conditions de logement. Et par-dessus ça, se rajoutent les violences faites aux femmes, qui sont vraiment un élément clé dans tout leur parcours de vie, qu'on retrouve souvent chez les personnes qui sont à la rue en hébergement d'urgence. À un moment ou un autre, très souvent, il y a des violences.
Et la question du logement est souvent au cœur aussi de ces difficultés pour les femmes à pouvoir partir. Comment emmener leurs enfants lorsqu'elles sont sous le même toit qu'un mari violent? Merci Manuel Domergue, en tout cas, merci d'être venu ce matin défendre votre parti pris, triste parti pris, puisque effectivement votre constat il est sévère, le rapport annuel du mal logement donc de la Fondation Abbé Pierre. Merci à vous. Il est 8h18 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud de Manche est avec nous ce matin. Bonjour Arnaud.
Parce que c'est tous les jours moi. Bonjour Apolline, je vous envie ce matin parce que vous recevez François Bayrou.
Ah, bonjour. Oh,
ça va faire du bien. Parce que François Bayrou, il est quand même plus zen que ses copains. Il a toujours conseillé au gouvernement de ne pas être brutal pour nous vendre la retraite à 64 ans. Et c'est vrai qu'une mauvaise nouvelle, en général, on l'annonce doucement. Hein, quand on a trompé sa femme, on lui dit « Chérie, assieds-toi, j'ai une nouvelle étonnante à t'annoncer. Oh, tu vas rire. Voilà, je rentrais de la cousinade Magnien et je suis tombé sur ta copine Valentine qui va pas bien en ce moment. Sa mère non plus, j'ai voulu les consoler. Alors une chose en entraîne une autre. Ah, les hasards de la vie. » François Bayrou, il est comme ça. Il est tranquille, il va carrément vous faire un massage des pieds pendant l'interview. Madame de Malherbe, enlevez vos chaussures.
Non.
Je sens que vos méridiens rencontrent des nœuds. Sentez mes doigts sur vos pieds, Madame de Malherbe. Alors, cette réforme, il veut pas vous brutaliser, c'est normal. Bon, alors le problème, c'est que c'est François Bayrou. Je veux dire, c'est comme François Valéry, plus personne l'écoute. Donc Elisabeth Borne, elle s'en fout du zen. Elle nous fait des doigts en disant « C'est pas négociable !» Darmanin, il traite les tourneurs fraiseurs de Roubaix de feignasses bobos. Les mecs doivent halluciner. Non mais ils font les 3-8. Ils font 8 heures à l'usine, 8 heures de traction, 8 heures de tuning. Ils ont la nuque longue, une dent en or, un t-shirt de Johnny. Et t'as Darmanin qui est là « Ouais, vous êtes des bobos vegan parisiens !» Ils vont le suspendre à une chaîne de montage, celui-là. Un jour, Findus va nous alerter, on aura trouvé des traces de Darmanin dans nos lasagnes, on va pas comprendre. À part ça, Apolline, vous direz à votre ami Philippe Martinez que sa manif était très réussie.
Oui.
C'est quand la prochaine fois qu'il vient? C'est demain?
Oh, bah peut-être.
En ce moment,
pourquoi
il vient souvent, hein.
Bah oui, c'est un peu l'homme du moment.
Bah, c'est à la 10e interview, il gagne une mini pizza. Ça se passe comment?
C'est Manu qui régale.
Bref, encore une manif réussie pour la CGT. L'occasion aussi de dire merci aux grévistes SNCF. Merci. Grâce à vous, les gens ont dû prendre leur voiture. Et donc, ils ont été plus nombreux à écouter RMC. Et ça, c'est sympa. Merci. On a envie de vous offrir des bonbons, des gâteaux. On a envie de vous offrir un chaton, la SNCF. Mais alors, attention, hein, ne faites pas comme avec le dernier.
Cette grève était donc un succès, en effet, selon les syndicats, Arnaud.
Oui, alors en même temps, on entend rarement des syndicats dire « Alors la police a dit que nous étions 1 million, mais nous, on pense qu'on n'était que 300 ». Les manifs pour la CGT, c'est comme Uncle Ben's.
C'est toujours un succès.
Philippe Martinez, on l'a senti, il a pris le leadership de la gauche sociale. Là où vous, de la gauche sociale, c'est ça que j'ai dit. Excusez-moi.
Mais c'est un beau programme.
Je me noyais dans vos yeux, mais Charles.
Oui. Et ce sera mon slogan 2027.
Donc Philippe Martinez a pris le leadership de la gauche sociale.
Là où Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a du mal à exister. Hein, vous voyez, Apolline, la pertinence de l'analyse politique que je vous livre. Hein, je suis une sorte de Arlette Chabot avec un peu moins de moustache, j'ai un Benjamin Duhamel qui est en moi, pardon, vous voyez j'ai vraiment la jeunesse de Benjamin Duhamel, donc bref, sous Manuel Bompard, LFI c'est pas la grande forme, on sent que le parti est un peu rouillé, Adrien Quatennin c'était le plus indiqué pour dérouiller tout ça, mais bon, il peut plus, Manuel Bompard il est quand même nettement moins bon que Mélenchon, je suis sûr que Mélenchon ça le rend fou quoi, il doit avoir envie de lui passer un savon. je veux dire un vrai savon pour qu'il soit plus présentable. Non mais à chaque fois qu'il passe à la télé, j'ai l'impression qu'il sort de 24 heures de garde à vue. Faut qu'il se ressaisisse.
Pourtant la NUPES, Arnaud, est la cible privilégiée de Gérald Darmanin, qui a donc accusé la NUPES de vouloir bordéliser le pays.
Oui, d'ailleurs cette déclaration de Gérald Darmanin n'a pas plu à tout le monde, notamment à son ex-patron Jean Castex. Ah, bonjour madame de Malherbe.
Ah, bonjour.
Bonjour à tous. Écoutez, je suis vexé. En matière de bordélisation du pays, nous avions fait le maximum, depuis les écoles jusqu'aux hôpitaux. C'est même à Gérald Darmanin que j'avais confié la mission d'ouvrir les parcs d'attractions sans les attractions qui marchent. La barre est haute en matière de bordel. C'est à Gérald Darmanin que j'avais demandé de mettre en place une auto-attestation pour auto-sortir de son auto-chez-soi de 8h à 19h dans les départements verts, uniquement si on est Capricorne aligné avec Saturne dans la maison du singe. C'est à Gérald Darmanin que j'avais confié le soin de veiller à ce qu'on ne s'assoie pas dans les restaurants.
C'est vrai.
Puis, ouais. Il renie notre héritage bordélisant. C'est une trahison. Oui. Tout ça pour faire bosser papy et mamie. Je suis déçu.
Les manifestants d'hier étaient très motivés, Arnaud.
Et oui, et alors à ce sujet, je vous ai fait un petit quiz.
Ouais.
Alors c'est un quiz sur les slogans qu'on a lus pendant la manif. Vous me dites si ces pancartes sont vraies ou fausses.
Oui.
Vous êtes prêts?
Oui.
Main sur le buzzer. Il y a un dîner avec Philippe Martinez à gagner.
Ah,
au palais de
on va gagner.
Au palais de la merguez, spécialité de saucisses cuites au feu de pneus dans des cours d'usine. Vous êtes prêts?
On y va.
Premier slogan. Marre de simuler ma retraite, je veux en jouir.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Normalement, les vieux meurent dans leur urine, pas dans leur usine.
Non, c'est faux.
Je ne veux pas quitter une boîte pour me faire enterrer dans une autre.
Ouais.
Ah, vrai.
Non, il est faux.
Ah, il est faux.
Macron, tu nous mets 64, on te met 68.
J'adore. Oui, c'est vrai.
Il est vrai, je l'ai vu sur le Instagram de Charles. Et dernier slogan, si on avait voulu se faire baiser par le gouvernement, on aurait voté Charles Magnin.
Ouais. Non.
Il est vrai, c'est Brad Pitt, le vrai slogan. Bravo au vainqueur qui a un dîner romantique à la CGT et deux places pour mon spectacle à Paris demain soir. Allez-y, c'est super. Et à demain.
À demain, Arnaud. Il est 8h24 sur RMC, vous l'aurez compris. Mon invité dans un instant, c'est François Bayrou. L'ami ou le complice ou le poil à gratter du gouvernement, c'est selon. On verra dans quel état d'esprit il est. François Bayrou, c'est sur RMC, BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.